Juste quelques mots d'abord pour vous remercier d'avoir, comme j'aime à dire, mais ça s'applique à aujourd'hui, d'avoir bravé le beau temps et la tentation d'autres manifestations et conférences sur des thèmes divers et variés. Merci de ne pas avoir oublié l'existence de ce cycle. Hein, avec Virginie Auffroy du Conseil de développement, on faisait le constat que nous nous étions quittés en mars dernier. Alors pour celles et ceux qui assistent pour la première fois, et je crois que c'est le cas de mademoiselle ou de madame, je rappelle très rapidement qu'il s'agit d'une conférence dans le cadre d'un cycle qui a été mis en place à l'initiative du Conseil de développement responsable de l'agglomération de Poitiers, représenté ici par son président, Jam Renaud, et puis divers membres, sans oublier donc Virginie Auffroy que j'ai cité à l'instant, et puis en partenariat avec l'Espace Mendès France, représenté ici par Anne Bonnefoy, que je remercie très chaleureusement parce qu'elle m'accompagne dans la préparation de ce cycle, sa conception et son animation. Alors je rappelle aussi que nous nous proposons de réfléchir, comme les fois précédentes, à un enjeu de société, pour voir comment des collectivités locales, des élus, des acteurs locaux peuvent se saisir de ces grosses questions de société. Et pour cette année, nous avons donc relevé le défi de réfléchir à la cohésion sociale qu'on a d'emblée plutôt tendance à aborder sur le plan national hein, de la société. Mais on s'est dit pourquoi ne pas voir comment des acteurs locaux pouvaient se saisir de cette question à l'échelle de leur territoire, d'une agglomération par exemple. Nous avons sollicité à ce titre Robert Castel, le grand sociologue. Il n'est pas intervenu le premier, il est intervenu le deuxième pour des questions d'agenda sans importance, mais il ne pouvait pas inaugurer ce cycle. C'est à lui qu'on avait pensé pour qu'il nous remette un peu cette notion de cohésion sociale en perspective historique, en nous rappelant qu'elle n'est pas tombée du ciel, elle s'est construite au fil du temps, à partir du 19e siècle, à travers la constitution progressive de l'État social. Et il nous a montré comment justement les pressions qui pèsent sur cet État social interrogent la manière de faire vivre cette cohésion sociale, y compris sur les territoires. Nous avons également sollicité Edith Ergon, prospectiviste, et puis Guillaume Maché, sociologue, pour le travail très très intéressant, hein, ceux qui étaient là peuvent en témoigner, j'espère, qu'ils ont fait à l'échelle de la ville de Vitry et pour le compte du Conseil général du Val-de-Marne, pour voir comment, non pas à quelle ville aspiraient les adolescents de cette ville, mais voir comment les adolescents vivent la ville et ce qu'ils attendent des élus, des adultes pour améliorer leur usage de la ville. Et à travers cette réflexion, nous avons réfléchi aussi à la manière d'envisager la cohésion, de faire vivre la cohésion sociale en essayant de surmonter tout ce qui justement joue dans le sens de la fragmentation, la segmentation des âges. Entre les adultes, les ados, les plus âgés, etc. Comment peut-on imaginer faire de la cohésion si on ne réfléchit pas à la manière de faire vivre ensemble des individus, des femmes, des hommes, des garçons, des filles de différents âges sur un territoire? C'était l'enjeu de cette réflexion-là. Nous avons également sollicité, lors de la troisième séance, Catherine Vitole de Vinden, qui nous a aidé à comprendre la manière dont les territoires, une agglomération, pouvaient se saisir des questions, des enjeux migratoires, et questions qui se posent, qui posent avec acuité la question du vivre ensemble à l'échelle d'une commune, d'une agglomération, du fait de l'intensification des flux migratoires, dont elle a montré, Catherine Vitole de Vinden, qu'ils étaient beaucoup plus forts dans les pays du Sud et entre les pays du Sud qu'entre les pays du Nord et des pays du Sud vers les pays du Nord. Hein. Elle avait bousculé pas mal d'idées reçues. Pour la dernière séance qui aura lieu donc en novembre, hein, je vous renvoie au programme, on va réfléchir à la manière dont ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire peut, dans quelle mesure elle peut contribuer à sa façon à la cohésion sociale. Et lorsqu'on avait imaginé cette séance-là avec Jean-Michel Servet, malheureusement Dominique Méda ne pourra pas être des nôtres, mais on n'avait pas pris la mesure du fait que ce thème-là allait parcourir le cycle. Je dis ça en pensant aux réflexions, au débat qui s'est amorcé avec Robert Castel, appel des représentants de l'économie sociale et solidaire présents dans la salle, montrant qu'elle pouvait être elle pouvait suppléer les défaillances de l'État social. Robert Castel n'était pas tout à fait convaincu, mais il y avait un débat très intéressant. Je renvoie aussi aux pistes qui avaient été engagées avec Catherine Vitole de Vindenne, qui suggérait l'idée que les territoires pouvaient exploiter dans le bon sens, ou disons plus exactement valoriser les ressources que représentaient ces migrants qui ont fait le choix de vivre ici, contraints ou forcés le choix, mais tout en gardant des attaches avec leur pays d'origine et qui pourraient être des acteurs intéressants pour développer des initiatives autour du commerce équitable, de la microfinance, dans le cadre de ce qu'on appelle la coopération décentralisée, qui permet donc à des collectivités d'œuvrer dans le sens de la solidarité avec des pays du Sud. Ben, peut-être qu'on pourrait commencer à travailler avec les gens d'ici qui ont des attaches avec les pays du Sud. J'en dis pas plus, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et ce soir, on va voir dans quelle mesure les urbanistes et la question de la ville, de son aménagement, peut être une manière aussi de traiter de la cohésion sociale. Et pour, et j'en m'en tiendrai là ensuite, pour nous aider à réfléchir à ce sujet, j'ai demandé à Alain Bourdin de venir nous expliquer cela. Alors, Alain Bourdin qui finit par devenir un peu poids de vin, parce que c'est la deuxième fois qu'on le fait venir. Il est venu au cours de la même année, mais dans le cadre d'une autre manifestation, pour voir comment on pouvait continuer à aimer sa ville, même quand elle bouge, elle se transforme. Toute allusion à un contexte urbain que vous connaissez particulièrement n'était pas forcément fortuit. Mais comment Alain Bourdin est un sociologue qui s'intéresse depuis des années à l'urbanisme. Il enseigne à l'Institut français d'urbanisme, dont il a été le directeur, et il a commis plusieurs ouvrages, je ne cite que les deux derniers, « Du bon usage de la ville », qui était déjà un très beau titre hein, chez Descartes et compagnie, paru en 2009, et l'urbanisme d'après crise, paru l'année suivante aux éditions de l'Aube en 2010, où il posait, malheureusement je n'ai pas amené mon exemplaire avec moi, il est écorné de partout, etc., et ça avait été d'ailleurs c'est un passage qui avait achevé de me convaincre de vous faire venir, Alain Bourdin, un passage où vous posiez la question de la cohésion sociale et la question de savoir comment justement les urbanistes pouvaient la traiter. Alors avant de vous inviter à monter à la tribune, de ce que vous pouvez déjà commencer à faire, merci Alain Bourdin, l'actualité joue en notre faveur, puisqu'il y a quelques jours de cela, je lisais dans un journal, La Tribune, pour ne pas le citer, le rendu d'une vaste étude qui a été faite auprès des Français par l'Institut Médiascopie, et qui interpellait des Français, un échantillon représentatif, comme on dit, de Français, pour leur demander comment ils voyaient la ville de demain, comment pour eux la ville du futur c'était quoi. Et l'article qui rendait compte de cette étude, dont je n'ai pas pu me procurer le rapport de première main, mais je le ferai, toujours est-il que l'article qui rendait compte de cette étude se terminait ainsi. Un mot ressort particulièrement de cette enquête, celui de mixité. En revanche, des craintes se dessinent sur la capacité de la ville du futur à assurer la cohésion sociale appelée de leur vœu par les Français. Oh, est-ce si sûr ? C'est peut-être par là, par cette question que je pourrais vous inviter à vous lancer dans votre exposé, sous un titre qui ne correspond pas tout à fait à celui que nous vous avions proposé, hein, c'était les urbanistes face à la cohésion sociale, mais personne n'ignore votre esprit rebelle et vous avez plutôt voulu engager cette réflexion sous ce titre pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être, sachant que vous disposez d'une quarantaine de minutes, c'est-à-dire très exactement de 40 fois 60 secondes pour ménager le plus de temps d'échange avec la salle.
Merci. Bon, ça marche, ça ? Oui, ça a l'air de marcher. Merci Sylvain Allemand. Bonjour tout le monde. Je vais évacuer tout de suite une question fort importante, c'est celle du titre. Alors franchement, je n'ai pas fait attention. Alors, je peux essayer de surinterpréter, mais ça va être difficile, en disant que dans le contexte des conférences précédentes, on était un petit peu conduit à formuler les choses ainsi. L'urbanisme, lui, c'est comment on agit. Et les thèmes précédents étaient plutôt des thèmes d'analyse. Et c'est vrai que j'ai commencé, et je commencerai mon exposé par des choses qui sont plus de l'ordre de l'analyse, mais effectivement, je le commencerai en sociologue, et je le terminerai plus en urbaniste, et donc en évoquant des choses qui se font ou des choses qu'on peut faire. Mais après, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce titre. Donc, merci de m'avoir invité dans ce cycle qui est très intéressant. Et sans vouloir du tout essayer de me situer dans un débat avec Robert Castel, pour qui j'ai une admiration sans borne, et je trouve que vous avez eu bien de la chance de l'avoir, je voudrais quand même, à ma manière, commencer en revenant sur cette notion de cohésion sociale et sur pourquoi, aujourd'hui, on reparle tellement de cohésion sociale. C'est un terme, c'est une expression qu'on a largement oubliée pendant des périodes entières, et on peut essayer de réfléchir un petit peu aux raisons pour lesquelles on en parle aujourd'hui. Vous vous souvenez sans doute d'une première ministre britannique, à mon sens de sinistre mémoire, mais chacun son goût, qui s'appelait Margaret Thatcher et qui avait dit « There is not such a thing as society. » La société, il n'y a pas cette chose qu'on appelle société. Eh bien, quoique je ne partage en rien les idées de Margaret Thatcher, il faut bien dire qu'on est confronté à cette question-là. On vit aujourd'hui dans un monde social qui s'exprime mal si on parle de société. Les sociétés, c'est un moment de notre histoire. Je dirais d'une certaine manière que les gens du Moyen-Âge ne vivaient pas en société. C'est quand on relit le Moyen-Âge à travers la fin du XIXe siècle qu'on dit que les gens du Moyen-Âge vivaient en société. La société, c'est une invention moderne. Je ne vais pas faire la philosophie et l'histoire, mais c'est une invention moderne. Et c'est une invention moderne qui atteint une espèce d'acmé, de sommet au XXe siècle, et plutôt dans la première moitié du XXe siècle que dans la deuxième. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on a fondé des disciplines, dont la sociologie, sur une définition du social qui est la société. Et la société, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une nation, ça veut dire un État, ça veut dire des classes sociales structurées, ça veut dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'ascenseur social, c'est-à-dire la mobilité sociale, ça veut dire des rapports de force structurés, et puis quand ça devient l'État social, ça veut dire de la négociation de ces rapports de force, etc. Toutes choses qui ont fait notre univers social pendant un moment et qui ne le font plus vraiment. Et donc aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que le lien social, ce qu'on appellera faire société, ça passe plus par la société. Alors quand je dis plus, disons de moins en moins. Ça passe moins par la société avec un grand S. Et c'est à la fois un enjeu pour la connaissance et un enjeu pour l'action, pour la politique. C'est-à-dire, comment rendre compte de la manière dont on fait société aujourd'hui et quel type de prise on a sur ces nouvelles formes sociales, comment est-ce qu'on les oriente ? Et derrière des débats très précis, comme le débat sur l'économie sociale, Si vous faites un peu de théorie derrière ça, ben, il y a le problème de on ne fait plus société avec la société. Et alors, comment on en rencontre ? Un des risques, c'est de dire, il y a plus, c'est la position Thatcher, c'est de dire, il n'y a plus que des individus. Il n'y a plus que des individus qui interagissent. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La métropole des individus », mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y a que des individus qui interagissent. Je dis qu'il y a une autre manière de faire société dans laquelle l'individu joue un rôle différent. Mais donc, ça, on a un vrai problème qui est comment on rend compte de la manière dont nos univers sociaux ont évolué et de la manière dont ils ont évolué, notamment dans ce contexte qu'on appelle d'un mot rapide, mais qui recouvre tout un tas de choses très importantes, qui est le mot de mondialisation. Comment est-ce qu'on rend compte de la nouvelle manière de faire société dans un contexte de mondialisation ? Et c'est là que on a mobilisé le terme de cohésion sociale. Alors, on le met à toutes les sauces. Il y a des sauces piquantes, des sauces dures, des sauces molles, pas d'allusion. Tout ce qu'on veut, mais la cohésion sociale, si je me situe du point de vue des sociologues, je pense alors là, non pas à Robert Castel, mais à mon collègue François Dubé de Bordeaux, il y a l'idée que peut-être à travers la notion de cohésion sociale, on va pouvoir rendre compte de choses nouvelles qui se passent, des évolutions qui sont en cours. Et donc, l'interrogation sur la cohésion sociale, et c'est là-dessus que je voulais commencer, c'est à la fois une interrogation sur la compréhension du monde dans lequel on vit, et c'est aussi une interrogation sur la manière d'agir sur le monde dans lequel on vit. Et je crois que, en particulier, les questions qui sont derrière, alors si je me situe du point de vue de l'action, les questions qui sont derrière, c'est comment est-ce qu'on crée du lien social qui ne soit pas seulement du lien social micro ? Je vais revenir là-dessus. Parce que ce qu'on voit bien, c'est que dans nos univers sociaux, on sait créer du lien micro, autour de projets, autour de la quotidienneté, autour de... Bon. Mais il y a aussi le problème qu'il faut du lien macro, il faut des références communes, rien qu'à l'échelle d'une agglomération comme Poitiers. Ben, il faut avoir un minimum de choses en commun pour agir en commun. On a besoin, à certains moments, d'agir en commun. Bon. Comment est-ce qu'on fabrique des choses comme ça ? Ça, c'est la question de l'action. La question de la connaissance, c'est qu'est-ce qui se passe de nouveau ? Et la question de l'action, c'est ça. C'est comment on fait du lien macro. Alors, pourquoi je commence par là ? Parce que je suis sociologue d'origine, d'accord. Mais j'ai quand même une autre raison. C'est que la ville, et en particulier ce qu'on appelle les métropoles, alors, je vais revenir dans un instant, mais la ville, et en particulier ce qu'on appelle les métropoles, sont le lieu où ces problèmes se posent avec le plus d'intensité. C'est-à-dire, c'est dans les villes les plus métropolisées que l'on a le plus les transformations sociales, et c'est là que le problème de fabriquer du lien social macro, comme j'ai dit, se pose avec le plus de difficultés. Bon, ce qui fait que, alors là c'est un avis personnel, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, à mes yeux, un des chantiers majeurs du politique, c'est l'action dans les grandes villes. Inventer l'action dans les grandes villes. Alors, je ne pense pas du tout qu'on ait plus besoin de l'État, hein, soyons clairs. Je pense que l'adéquation entre un État et une société, ça ne se passe plus comme ça. Mais qu'en revanche, qu'on ait besoin de structures étatiques pour traiter un certain nombre de problèmes, c'est pas du tout quelque chose que je remets en cause. Pas du tout quelque chose que je remets en cause, il faut bien être clair. Mais en même temps, je pense que vraiment un laboratoire pour comprendre et pour trouver des solutions sur la manière de faire fonctionner nos nouveaux univers sociaux, c'est la gestion des métropoles et des villes en général, mais des métropoles en particulier. Alors, je voudrais quand même dire un tout petit mot sur cette notion de métropole que je viens d'évoquer, bien que ce ne soit pas du tout le sujet du jour, mais Encore que. Quand je parle de métropole, un mot qui veut dire tout et encore beaucoup d'autres choses, quand je parle de métropole, je parle de, non pas de taille. On a des métropoles qui sont assez petites en taille de population. Je parle de la capacité à produire des richesses, je parle de la capacité à produire de l'innovation, je parle du positionnement dans des grands flux. Une métropole, c'est un nœud de flux. C'est un nœud de flux dans lequel on crée de la richesse, dans lequel on produit de l'innovation, et c'est un lieu en mouvement permanent. Alors, je pourrais ajouter d'autres choses, hein, mais ça vous donne quelques points de repère relativement simples sur le fait notamment qu'il y a un lien tout à fait fort entre métropole et mondialisation. Les métropoles sont les nœuds de la mondialisation, pour dire ça très vite. Et j'ajouterai à ça, par rapport à la situation française, que... Enfin, ça éclaire la situation française. J'ajouterai que la métropolisation est un processus qui ne s'applique pas qu'aux grandes métropoles ou même aux moyennes métropoles. Tout le monde urbain est plus ou moins soumis au processus de métropolisation. Et juste pour vous faire rire, je vais prendre un exemple d'une toute petite ville très métropolisée, qui est la ville de Figeac dans le Lot. Figeac dans le Lot, c'est au milieu de nulle part, mais on y trouve une multinationale qui marche bien, aéronautique. On y trouve des activités culturelles et touristiques hautement sophistiquées, d'ailleurs très directement liées à l'agglomération toulousaine. Et je dirais que, et je pourrais ajouter encore d'autres choses, Figeac, 9900, non, ils ont passé 10 000. Ils viennent de passer 10 000. Bon. Figeac, 10 000 habitants, est une petite ville métropolisée dans le lien avec une métropole qui est Toulouse. Alors, on a ce type de choses, on a quelques villes qui sont encore très peu métropolisées, mais on voit bien, c'est un espèce de flot qui monte et qui concerne tout le monde. Et ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que cette transformation du lien social dont je vous parlais à l'instant, elle s'opère dans ces espaces métropolisés, non seulement les grandes villes, non seulement des villes plus petites touchées par le phénomène de métropolisation, mais aussi dans des espaces intermédiaires très complexes, qui sont par exemple des espaces périurbains dans certaines régions de France. Si on veut tout à fait comprendre ce qui se passe dans certaines régions du sud de la France, il faut aussi réfléchir sur la manière dont elles sont touchées par ce processus de métropolisation. Et si on veut comprendre les tensions sociales qui existent dans ces régions du sud de la France, il faut aussi faire entrer en ligne de compte le fait qu'il y a une société qui se transforme. Ce n'est pas simplement des dysfonctionnements, ce n'est pas simplement des choses qui vont mal, c'est aussi quelque chose qui est en train de se transformer. Je parlais en aparté tout à l'heure d'une zone qui, moi, m'a fasciné toute l'année là, qui est le pays de la Provence verte, capitale Brignoles, enfin capitale au sens la ville la plus importante, autre ville, Saint-Maximin et Sainte-Baume. Cette région qui est complètement, qui est en grande partie captée sur le plan de l'emploi par l'agglomération d'Aix, par l'agglomération de Marseille et par l'agglomération de Toulon. Cette région est une région où, en même temps, il y a de la misère, il y a une société, alors au sens traditionnel, qui est en train plus ou moins de mourir, et en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, avec d'ailleurs plein d'initiatives, plein de projets, plein de choses. Et puis d'abord, il y a Angelina Jolie et Brad Pitt, donc on est bien dans la métropole. Mais c'est très intéressant de regarder ces territoires qui sont des territoires métropolisés. Ils le sont sur le plan économique par un bout, en même temps par un autre bout, ils sont complètement out, mais c'est ça aussi. Et on a là des creusets où se passent des très grandes transformations sociales sur lesquelles il est tout à fait utile de réfléchir. Alors, si on réfléchit, justement, c'est-à-dire si on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion sur ce qui est très structurant de ce nouveau contexte social qu'on va essayer de décrire en cherchant les éléments de cohésion et sur lequel on va essayer d'agir en fabriquant de la cohésion. Si donc on essaie de réfléchir aux caractéristiques de ce nouveau contexte social, il y a des choses sur lesquelles il faut nécessairement venir, par exemple l'importance de la mobilité. L'importance de la mobilité, c'est d'une banalité folle, mais il faut quand même le dire, et je vous ai même, je vous ai même apporté quelques chiffres sur Poitiers, juste pour vous rappeler ce que c'est que le mouvement dans la ville. C'est rien d'extraordinaire, sauf que là, on a les chiffres sur les migrations à l'intérieur de les migrations vers l'agglomération, excusez-moi. C'est la statistique banale sur où est-ce que vous habitiez 5 ans avant. Bon, on a quand même 49% des gens qui n'habitaient pas la même commune. Bon, il y a un chiffre qui est un peu compliqué à analyser parce qu'il mélange des choses différentes, donc j'en ai pas parlé, mais vous voyez quand même que si on prend ceux qui étaient vraiment pas là du tout, ça fait déjà du monde. Et Poitiers est pas, pardonnez-moi, mais Poitiers est pas la championne en la matière. Hein. On pourrait trouver des chiffres beaucoup plus élevés ailleurs. De même, si je prends des chiffres sur le travail, à Poitiers, donc dans la communauté d'agglomération, 51% des actifs travaillaient dans leur commune. Si vous prenez Nantes Métropole, c'est 44%. Si vous prenez la zone d'emploi de Paris, c'est 40,5%. Et puis à l'autre bout, vous avez 4,4% des actifs hors du département et 2,2% hors de la région. Ce n'est pas des chiffres énormes par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs, mais ça montre que le mouvement, il est partout. Le mouvement, il est partout, même dans des villes moyennes, comme Poitiers. J'ajoute, juste histoire de rigoler, quoi, que la mobilité, elle s'exprime aussi, bon, je sais, c'est déplaisant, mais moi, j'adore la statistique du nombre de voitures. Et encore, vous plaignez pas, ici, on a un tout petit peu baissé par rapport à 99. Je vous citerai des agglomérations qui s'occupent beaucoup, beaucoup de développement durable, mais où ça a monté depuis 1999. Bon. Et puis, une autre chose, c'est votre futuroscope. Bon, il vaut ce qu'il vaut, mais enfin, quand même, 1 300 000 nuitées hôtelières. Je ne parle pas des autres nuitées. Hein, 1 300 000 nuitées hôtelières. Bon, pourquoi je donne ça? Parce que tout ça, c'est des chiffres de mobilité. Hein, tout simplement, tout ça, c'est des chiffres de mobilité. Je me suis amusé à l'exercice de dire, je ne vais pas leur parler des mobilités spectaculaires qu'on voit dans tel ou tel lieu. Je vais aussi leur parler d'éléments de mobilité banale dans un endroit qui ne paraît pas le plus mobile de France. Bon. Et même dans un endroit qui ne paraît pas le plus mobile de France, ben, la mobilité banale, c'est quand même quelque chose. Alors, importance de la mobilité et des diversités de mobilité. Je ne veux pas être long là-dessus, mais c'est très marquant dans les phénomènes de métropolisation. C'est très marquant parce que vous avez à la fois les mobilités liées au travail. Et entre nous, si je vous donne des chiffres sur les automobiles, sur etc., c'est qu'on voit qu'il y a de la mobilité interne tout à fait importante dans les agglomérations. Et quand on raisonne à l'échelle d'une aglo ou d'une zone d'emploi ou d'un pays, on voit combien la mobilité dans tous les sens joue un rôle important, avec les effets catastrophiques que ça peut avoir d'ailleurs. Mais c'est, on est tout le temps devant et on a d'abord de la mobilité liée au travail. On a aussi toutes les mobilités, je ne vais pas mobiliser le bureau des temps qui pourrait bien expliquer ça, mais On a aussi toutes les mobilités qui sont liées à la vie familiale, à l'approvisionnement, etc., etc. Et tout ça, c'est tout le temps présent. Et puis, on a des types de mobilités très différents. On a les étudiants. Poitiers est une de ces villes... C'est un de vos gros atouts, hein, les étudiants, ici. C'est comme Amiens, mais c'est mieux qu'Amiens, d'ailleurs. Vous êtes mieux qu'Amiens, là-dessus. Bon. Donc, vous avez les étudiants sont de la mobilité. Vous avez la part extrêmement importante des mobilités professionnelles qui marquent les paysages urbains. Et puis, vous avez toutes les mobilités de type touristique. Alors là, je vais vous parler de Paris, mais 20 secondes. Hein. 20 secondes de Paris. Paris, c'est fabuleux. Bon, avec, si on compte Disney, il y a 30 et je ne sais plus combien millions de visiteurs par an, en comptant les 13 millions de Disneyland de Paris. Mais je vais vous donner un témoignage d'habitants de Paris. Dans le 6e arrondissement, dans une partie du 6e arrondissement, ou du 7e, non, du 6e, je pense, vous avez les Italiens. C'est-à-dire que, alors c'est amusant parce qu'il y a beaucoup de collègues universitaires, donc j'en connais, qui se sont achetés un 25 mètres carrés. Pour venir passer un mois de temps en temps, pour faire loger les enfants, etc. Et quand c'est 25 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. Il y en a qui ont fait encore moins. Bon, alors vous avez les Italiens là. Dans mon quartier, moi, qui est tout près de l'hôtel de ville, on voit comme l'eau qui monte, hein, comme la marée qui monte, les appartements qui sont loués à la semaine, à la journée, enfin pas à la journée quand même, mais à la semaine, au week-end, etc. Avec des gens de tous les coins du monde. Bon, alors, ah, c'est l'extrême, hein. Ça c'est l'extrême, et d'ailleurs ça pose des problèmes. Allez, je vais oublier que je suis à une tribune, je vais dire un instant un truc très politique. Je suis scandalisé par le fait que les responsables parisiens, tout bord d'ailleurs, ne se posent pas plus sérieusement la question des risques liés au tourisme, et en particulier des risques sociaux. C'est vachement bien. Bon, et des risques environnementaux entre nous. Bon, ça fait rentrer des sous dans les caisses, c'est bien. C'est vrai que les salons et les congrès, ça rapporte énormément d'argent. Il ne faut pas se tromper, ça rapporte énormément d'argent, les congrès. Et notamment les congrès médicaux, alors là, c'est le pied. Les congrès médicaux, c'est une activité économique qui rapporte. Hein. C'est clair. Peut-être un peu moins maintenant que les laboratoires, jusqu'à maintenant, ça marche. Bon, je passe là-dessus, c'était juste pour insister sur tous les aspects de mobilité qui sont tout le temps présents dans notre ville, dans nos villes. Bon, je vois l'heure qui tourne, donc je vais un peu plus vite. Diversité des modes de vie. Là encore, non seulement on a les problèmes du cycle de vie, c'est-à-dire qu'on a des modes de vie qui changent au cours du cycle de vie, soit pour des raisons d'accident, chômage, etc., soit pour des raisons de recomposition de la famille, avec éventuellement des changements de mode de vie qui peuvent être spectaculaires. Bon, non seulement changement de lieu de résidence, mais changement de loisirs, changement d'organisation familiale, etc. Ça, c'est rien que ce qui est lié au cycle de vie. Et puisque le sujet à la mode, c'est le troisième âge, encore que il y a peut-être aussi des raisons de se préoccuper de la manière dont on intègre les jeunes à notre univers social. Mais bon, le sujet un peu à la mode, c'est le troisième âge. Dans ce qu'on appelle le vieillissement, la vieillesse, enfin, il y a toute une discussion à avoir sur la manière dont on nomme les phénomènes qui sont liés au constat statistique de l'allongement de la durée de la vie moyenne. Ça, c'est un fait qu'on énonce. Après, quand on commence à le nommer, on a souvent très vite les jugements de valeur qui arrivent derrière. Bon. Mais sur ce qui se passe donc avec l'allongement de la durée de la vie, il y a une diversité de questions, et notamment, il y a une diversité de modes de vie dans les populations concernées. Et de vous à moi, j'ai comme une idée que ça va encore changer, que dans les années qui viennent, on aura encore des changements de mode de vie dans les catégories concernées. Parce que les joyeux jeunes retraités d'il y a 4-5 ans, peut-être, qui sont partis au bon moment, on les reverra peut-être plus. dans les générations suivantes. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, importance de la diversité des modes de vie, avec des choses qui sont difficiles à expliquer en trois mots. Il y a les modes de vie qui sont liés à que j'appellerais thématiques. Je mettrais dans le même sac des modes de vie qui sont très centrés sur une activité, je dirais par exemple sur le sport, les modes de vie des fanatiques du sport. J'y mets dans le même sac, et qu'on me pardonne parce que c'est très simplificateur, les quartiers gays. J'y mets dans le même sac le quartier Vauban à Fribourg, qui est un quartier de militants, hein, de gens qui ont choisi un mode de vie écolo, etc. Bon, ça, c'est très caractéristique, on pourrait ajouter la liste, hein, c'est très caractéristique de la manière dont on fait du social aujourd'hui, dont on fait du lien. C'est-à-dire, le thématique joue un rôle très, très important dans la distribution des modes de vie. Et puis, il y a des bricolages de toutes sortes. Enfin, c'est fascinant de regarder comment des familles bricolent des modes de vie. Et quand on regarde sous la contrainte, dans la difficulté, etc., et quand on regarde les choses, on voit que tout ça fait, au total, des modes de vie très différents. Et j'ajouterais à cela l'immersion dans les réseaux. Ce truc assez nouveau, dans son ampleur, parce que Internet, ça existe depuis un certain temps, mais ce truc assez nouveau dans son ampleur, alors on a eu des points de repère qui sont intéressants. Il ne faudra pas oublier les apéros géants. Quand on écrira l'histoire de la société, entre guillemets, hein, j'emploie le terme par facilité, française, dans cette période de début du XXIe siècle, il y aura une date importante sur les évolutions sociales comme point de repère. Alors les flash mobs, justement, on les localise moins, mais les apéros géants, proprement dit. Parce que ça, c'est... Alors après, on pourra y ajouter des choses plus... Je dirais pas plus chic, parce que c'est pas ça, mais plus politique ou autre. C'est-à-dire, on pourra s'interroger sur la Tunisie, par exemple. On pourra s'interroger sur les indignés, etc. Mais... il y a une espèce de point de départ là, anecdotique, mais intéressant, qui est les apéros géants. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la manifestation du réseau. C'est la manifestation du réseau dans l'espace public. C'est le moment, et ne l'oublions jamais, le moment où les réseaux s'inscrivent dans l'espace public. Et on a toute une séquence qui s'inscrit là, qui est une séquence extrêmement importante, extrêmement intéressante. C'est pour ça qu'il faut regarder... Très fin, je pense que la Tunisie, dans les révolutions, ou les, entre guillemets, révolutions, j'en sais rien, arabes, je pense que la Tunisie est le cas peut-être le plus intéressant pour étudier ça, hein, pour étudier cet aspect des choses. Alors, les réseaux, on dit les réseaux relocalisent. Bon, vous prenez Supermarmite, vous prenez maresidence.fr, je vous conseille d'aller voir Supermarmite, c'est très intéressant. Il y en a d'autres encore. Bon, on dit ça relocalise parce que ça vous permet, par exemple, de trouver les gens qui font de la bonne cuisine et qui en ont à vendre ou à céder ou à échanger, pas forcément dans le circuit commercial, même théoriquement pas dans le circuit commercial, dans votre quartier. Maresidence.fr, ça vous permet de trouver des choses autour de vous. Mais faites bien attention, c'est du réseau thématique. Donc, c'est du réseau de proximité, c'est pas ça qui fait un quartier. C'est pas la même chose. C'est autre chose. C'est pas moins mal, moins bien. C'est autre chose. Et donc, l'immersion dans les réseaux, et les réseaux, c'est... Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que le réseau, ça produit plein de social. Mais ça produit pas nécessairement de la cohésion sociale. Ça produit plein de liens sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut regarder ça de très, très près. Hein? Mais la question est, comment est-ce qu'on va produire du lien un peu macro, un peu durable, à partir de ça? Et ça, c'est une vraie question qui est comment on fait de la cohésion sociale. Alors, le risque, et c'est là que je viens à la ville, faut que je fasse vite, le risque dans tout ça, c'est une ville dans laquelle on a des réseaux, des micro-groupes, des choses comme ça, qui sont éventuellement dynamiques, mais qui ont chacun sa lecture de la ville et qui se croisent sans jamais se parler d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils ne font pas une pratique commune de la ville. Et ça, bon, ce n'est pas forcément gravissime, mais enfin, s'il n'y a pas d'idée de bien commun, ça rend la collaboration un peu difficile. Si les amateurs de bouffe qui sont scotchés à Super Marmite ont rien à dire aux amateurs de sport qui sont scotchés à autre chose, lesquels n'ont rien à dire à la communauté gay parce que ça ne les intéresse pas du tout, laquelle n'a rien à dire, bon, enfin, etc., etc. Bon, on voit bien le risque, c'est que pour faire société, on a un peu un problème. On a un peu un problème de bien commun. Et ça conduit à quoi ? Ça conduit à ce que le bien commun, il se définit de façon abstraite, il va s'inscrire dans des normes, et on va le mettre en œuvre par la répression. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'on voit devant nous. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir sur, je vais dire une horreur, mais j'ai donné comme titre un article, donc j'assume, la société policière démocratique. Ou la société démocratique policière. C'est-à-dire que on a, dans le contexte de pays démocratique, une manière de réguler et de mettre de l'ordre qui ne peut s'appuyer que sur des forces répressives parce qu'il n'y a pas le substrat du sentiment d'un bien commun. Bon, c'est un peu noir ce que je dis, mais entre nous, si vous regardez certains sujets comme la sécurité routière, un des problèmes avec la sécurité routière, c'est que du temps où un certain nombre d'entre nous n'étaient pas nés et où d'autres étaient un peu au berceau ou enfants, il y a eu une campagne d'Europe 1 qui, si je sais bien, était « pousse, je passe ». Bon, là, ça a marché. Ça a marché. Je pense que ça ne marcherait plus un instant maintenant. C'est-à-dire qu'on est encore dans un contexte social où on peut avoir le sentiment du bien commun. Oui, c'est ça que ça donnerait aujourd'hui. Où on a encore un peu de sentiment du bien commun. Aujourd'hui, on a un vrai problème qui est qu'à partir du moment où, en matière de sécurité routière, on a un mal fou à fabriquer l'idée d'un bien commun, ça débouche essentiellement sur le tout répressif qui, malheureusement, est pas si efficace que ça, quoi. Pour être clair. Alors, après ce tableau, bon, nuancé, hein, il n'est pas forcément noir, mais qu'est-ce qu'on fait dans la ville ? En quoi on peut faire quelque chose sur le milieu urbain pour... Alors là, je ne suis plus du côté de l'analyse, hein, je suis du côté de l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu urbain pour fabriquer de la cohésion sociale ? Dans ce contexte-là, j'ai pris un peu de temps sur le contexte parce que c'est important de comprendre que c'est dans ce contexte-là. Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur un certain nombre de sujets. Il ne faut pas croire qu'on va fabriquer des communautés. Pas croire qu'on va fabriquer des sentiments communautaires forts et que ce soit la ville ou autre chose, l'urbanisme ou autre chose, il n'y a aucune chance qu'on fabrique des villes très intégrées, avec des gens qui se sentent très solidaires les uns des autres, etc., etc. C'est pas la peine de perdre son temps à croire à ça. À l'échelle de la ville, on peut le faire à des échelles plus micro, hein, mais à l'échelle de la ville, c'est pas la peine de croire à ça. J'ai envie de revenir un instant sur les choses qui sont possibles en prenant deux exemples et en étant un peu énervant. On déblatère sur les gated communities, l'entre-soi, le vilain entre-soi. Bon. Il y a une ville de France, j'ai failli donner son nom, mais je ne veux surtout pas. Il y a une ville de France où il y a une association assez dynamique de gens qui se trouvent en plus être, pour une part, des anciens ouvriers de l'industrie. Bon, c'est pas socialement uniforme, il y a des gens un peu divers. Et ces gens ont voulu faire un lotissement, comme les castors autrefois, quoi. Ils ont voulu faire un lotissement. Et qu'a dit la municipalité socialiste ? Elle a dit « Oh non, c'est l'entre-soi ». C'est une erreur d'analyse. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'effectivement, certaines gated communities ou condominios fechados du Brésil, par exemple, sont des lieux d'où on exclut le monde extérieur au profit d'une vision du monde complètement égoïste, complètement profiteuse, etc., etc. Bon, on a toutes les raisons de trouver ça désagréable. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est un mode de structuration qui, avec d'autres contenus, est probablement un mode de structuration qui peut aider beaucoup à l'existence du social dans les villes. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas que les gens fassent de l'entre-soi, c'est avec quelle vision du monde, avec quel rapport au reste du monde, avec quel projet. Parce que Fribourg, le quartier Vauban, c'est une gated community. C'est des gens qui font de l'entre-soi. Ils font de l'entre-soi sur un projet de développement environnemental, etc., etc. Donc le problème, c'est le projet. Je vais prendre encore un autre exemple là-dessus, puis après je m'arrêterai, mais un autre exemple là-dessus. Moi, j'ai une doctorante qui est brésilienne et qui a travaillé sur des choses de fabuleux. À Rio, il y a des gens des favelas qui ont envahi des anciennes usines, qui ont construit à l'intérieur, etc., qui s'y sont installés et qui se sont organisés exactement de la même manière que les condominios fechados des quartiers chics, avec des gardiens. On garde la porte, on a un syndic de copropriété, il n'est pas légal puisqu'on est dans l'illégalité. On fait payer des charges de copropriété, on a fait une piscine à l'intérieur. Elle n'est pas très chouette, mais enfin, elle fonctionne. On a fait, etc. Et là, pourquoi ils ont fait ça? Pour se défendre contre le narcotrafic. Ils ont fait de l'entre-soi contre le narcotrafic. On peut comprendre, non? Bon. Alors, tout ça amène à dire... On a des modes de structuration sociale qui sont différents. Il ne faut pas nécessairement dire « on n'en veut pas ». Il faut peut-être plus réfléchir à ce qu'on met dedans. Hein, c'est le message que j'essaie de faire passer, là. Hein, plutôt que de mettre en cause une forme sociale qui se développe, qu'est-ce qu'on lui donne comme objectif? Qu'est-ce qu'on met dedans? Bon, alors, comme l'heure est pratiquement terminée, je vais quand même dire deux, trois autres choses. La première... c'est que dans le genre de « il ne faut pas se tromper », j'avais envie d'ajouter « il ne faut pas non plus se tromper sur la mixité sociale ». Mais ça, si vous voulez, on y reviendra dans le débat. Et on peut dire il y a des idées de la mixité sociale qui sont irréalistes, pour ne pas dire dangereuses. Il y en a d'autres qui sont sûrement productives, au contraire. Donc là, il y a un vrai débat à avoir. Mais je voulais terminer en insistant sur ce qui est alors vraiment de l'urbanisme. Comment on crée de la cohésion sociale à travers l'action urbaine? Il y a plusieurs manières de faire, mais à mon avis, il y a trois choses à voir. La première, c'est travailler sur la fonction d'accueil. Nos villes qui sont tout le temps dans la mobilité ont un problème de fonction d'accueil, mais même interne. C'est une fonction, c'est-à-dire avec des acteurs, avec des moyens, avec des lieux, avec une vraie réflexion sur les lieux de l'accueil, avec une politique urbaine de l'accueil. Moi, je viens d'écrire une note pour la ville d'Amiens, justement, sur comment cette ville peut se servir de la fonction d'accueil pour régler tout un tas de problèmes, y compris des problèmes de développement économique d'ailleurs. Bon, on a là un élément, on peut en discuter, hein, je parle très vite exprès, mais on a là un élément qui est très important. Un deuxième élément qui est très important et qui est très urbanistique, c'est fabriquer des lieux d'échange. Alors là, je me référerais à Pleine Commune, par exemple, qui est donc une intercommunalité au nord de Paris avec... Saint-Denis et la plaine Saint-Denis comme point fort, et Aubervilliers. Bon, le Pleine Commune est, dans l'Île-de-France en tout cas, la seule collectivité, enfin c'est techniquement une intercommunalité, hein, mais qui a vraiment réfléchi sur l'échange. C'est-à-dire comment, ayant des gens qui sont, comme j'ai décrit, dans des réseaux différents, dans des groupes différents, etc., comment on leur donne l'occasion de se frotter les uns aux autres. Saint-Denis n'insiste pas beaucoup sur les politiques classiques de mixité sociale. c'est-à-dire mettre des gens différents côte à côte dans l'habitat, ils insistent plus sur la rencontre, les opportunités de rencontre, à travers de l'espace public, à travers des équipements qui puissent être intéressants pour des gens différents, et à travers des événements. La fameuse, je ne sais plus comment ça s'appelle, la cavalcade qu'ils font, à travers des événements. Et ça, c'est un petit peu l'équation de la rencontre, de l'espace public, des équipements qui soient réellement des équipements où on a des chances de se rencontrer. Et ça, c'est un problème de programme en matière d'architecture et de conception d'équipements. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Et puis, de l'événement. Et le troisième point, et je terminerai là-dessus, c'est promis juré, je n'aurai dépassé que 2-5 minutes. Donc le troisième point, c'est le travail sur la citoyenneté. Et le travail sur la citoyenneté, il passe non seulement par la réflexion sur les niveaux de citoyenneté, c'est le côté institutionnel, mais il passe par une réflexion sur ce que sont aujourd'hui les droits urbains qui fondent la citoyenneté. Et on ne fonde pas une citoyenneté sans l'associer à des droits. On l'associe certes à des responsabilités, certes à l'intervention dans la décision, mais on l'associe aussi, et c'est peut-être une caractéristique du monde contemporain, on l'associe fortement à des définitions de droits. Et il y a là tout un travail à faire sur le droit à l'accueil, sur qu'est-ce que ça veut dire le droit à l'accès, sinon à la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire le droit à un environnement satisfaisant? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire le droit à la sécurité? Et là, me semble-t-il, il y a des chantiers qui sont des chantiers qui concernent non seulement le politique, mais qui concernent très directement l'action qu'on fait sur la ville. Merci.
Avant de prendre les questions de la salle, de vous dire merci, et pourquoi je tiens à vous dire merci, Alain Bourdin, un mea culpa, parce que j'ai omis de rappeler que vous étiez effectivement l'auteur en 2005, aux éditions de l'Aube, de Métropole des individus, qui posait effectivement ce problème, c'est-à-dire comment on fait du lien, on fait du vivre ensemble, et comment le fait de se saisir de la question à travers la métropole permettait de l'éclairer de manière pertinente. Oh, merci, parce que moi, chaque fois qu'on me parle d'accueil, déjà je vibre, parce que je pense que c'est une notion clé, la notion clé du 21e siècle, et Dieu sait qu'il y a des villes qui sont très peu accueillantes, jusqu'à y compris dans la manière dont elles conçoivent leur mobilier urbain, hein, des villes où on ne peut pas s'asseoir, où on ne peut pas parler entre soi, parce qu'il y a des nuisances sonores, etc., et ça c'est des vastes chantiers pour les urbanistes. Bien sûr, cette question de citoyenneté, la ville, ce sont des droits et les urbanistes peuvent aider à les incarner. Alors, j'aurais une question, mais je la garde dans ma poche pour privilégier les réactions de la salle. C'est votre réaction par rapport à ce débat autour d'une citoyenneté présentielle qui consiste à prendre en compte l'ensemble des usagers d'une ville, ceux qui y habitent, mais aussi ceux qui y travaillent et qui n'y vivent pas forcément, ceux qui ne font qu'y séjourner et qui ont peut-être aussi leur mot à dire sur la manière de vivre, d'aménager la ville. Comment le sociologue urbaniste se positionne par rapport à ce débat-là? Vous pourrez nous le dire, mais peut-être plus en rebondissant sur une question de la salle ou un témoignage. Voilà, il y a un micro à votre disposition, vous connaissez la règle, hein, il suffit de lever le bras pour signaler votre... Voilà, au deuxième rang. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter.
Je présenterai après, si vous permettez. Bon, pourquoi? Est-ce que ça a jamais existé, la cohésion sociale en ville? Est-ce qu'on ne confond pas avec la paix sociale? Parce que toutes les villes du 19e siècle ou du 20e, c'était des villes de lutte, de société côte à côte. La cohésion, on la trouve a posteriori, j'ai l'impression. Est-ce qu'on ne croit pas avec sa paix sociale, notamment actuellement les dirigeants des villes, enfin, si j'ose dire. On veut la paix sociale, que c'est la cohésion.
Oui, alors...
J'ai été géographe.
Je reviens sur le début de mon intervention. Les sociétés constituer ce dans quoi nous ne vivons plus. Les sociétés constituées étaient des sociétés qui fonctionnaient sur le conflit. Mais il y avait, je vais dire ça autrement, il y avait un ordre social. On a vécu dans des contextes sociaux qui étaient structurés par un ordre social. Cet ordre social était générateur de conflits. Mais je dirais que ce n'est pas un problème, du point de vue de l'analyse. C'est-à-dire que du point de vue de l'analyse, ça n'empêche pas qu'il y a un ordre social et que l'enjeu, c'est l'ordre social. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui, il y a une structuration de conflits autour de l'enjeu ordre social. C'est bien ça qui nous embête, d'ailleurs, entre nous. Parce que ça rend les sociétés, entre guillemets, ça rend les États, en tout cas, infiniment complexes à gérer. Parce que c'est très difficile de cliver. C'est très difficile de cliver autour de quelque chose qui est l'ordre social. Alors, on a les clivages autour de choses qui relèvent de l'ordre économique mondial. C'est pas commode. Bon, c'est pas commode. C'est tout un tas de problèmes techniques. Bon. Alors, quand je parle de cohésion sociale, j'ai dit au début, la cohésion sociale, c'est une... Bon. Dans le sens que je lui ai donné, c'est... une manière, c'est la manière dont on nomme ce qui fait société aujourd'hui. Sachant que ce qui fait société aujourd'hui n'est pas l'ordre social, ce qui fait société aujourd'hui, c'est autre chose qui est de la cohésion sociale. Et pour aller jusqu'au bout, je dirais que faire de la cohésion sociale, c'est éventuellement créer du conflit. C'est-à-dire, c'est pas du tout faire de la paix sociale. C'est pas du tout faire de la paix sociale. Faire de la cohésion sociale, c'est peut-être d'une certaine manière rendre de nouveau le conflit possible. C'est-à-dire, il y a à mes yeux une grande différence entre la violence gratuite ou en tout cas non ciblée qui est tout le temps présente dans les contextes urbains et le conflit. Le conflit, c'est à partir du moment où il y a un enjeu qui est partagé. Et le no future d'il y a quelques années, ou de maintenant d'ailleurs, bon, tout un tas d'éléments qui sont des éléments qu'on va repérer comme conflictuels. En fait, ils ne sont pas. Ce sont des éléments de violence non ciblés. Il y a conflit à partir du moment où il y a un enjeu sur lequel, dans le fond, on est d'accord. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est aussi de recréer des enjeux sur lesquels il puisse y avoir des conflits. Et il y a ce qu'on observe tout le temps, c'est que l'enjeu des uns n'est jamais l'enjeu des autres, qu'il y a des décalages sans arrêt. Et je crois, alors vraiment, si vous avez compris que je voulais dire que la cohésion sociale, c'était la paix sociale, non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Je ne sais pas si je vous réponds.
Alors, le micro, excusez-moi, monsieur la règle, le micro pour qu'on puisse vous enregistrer.
Je disais ça volontairement parce que les responsables politiques recherchent en fait souvent la paix sociale.
Oui.
Et vous dites que la paix en fait a lieu après le conflit.
Mais je peux.
Quand elle existe.
Je ne peux pas nommer parce que ce n'était pas public. Mais une discussion entre un maire et un adjoint au maire à propos d'un projet qui, disons, est un projet d'habitat très social. Le maire, l'adjoint lui dit, monsieur le maire, si vous faites ça, on ne va pas être réélu. Le maire lui répond, je n'ai pas été élu pour me faire réélire, j'ai été élu pour faire passer les projets. Bon. Alors ça, c'est le monde de oui-oui, mais ça existe un peu de temps en temps, quoi. Ça existe un peu de temps en temps.
Je fais juste remarquer, pas forcément pour vous mettre d'accord, c'est pas l'enjeu de cet échange, mais je rappelais ce que vous disiez sur le risque d'une démocratie policière. C'est ça. Cette tentation existe et ça réfère à ce que vous dites. Question ? Alors, ici, et ensuite, voilà, je te laisse.
Oui, donc je suis Philippe Bréjon, je suis sociologue. Et donc dans votre... pas spécialisé du tout sur la ville, en fait. Hein, mais en fait, dans votre exposé, qui était fort intéressant, En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire la question des institutions, en fait ? Enfin, plus exactement, j'ai le sentiment que finalement, dans cette histoire de cohésion sociale, les institutions ont un rôle, enfin, ont été jusqu'aux années 70 des supports, des corps intermédiaires qui jouent un rôle extrêmement important. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, le changement de paradigme, la mondialisation un peu détruit un peu aussi, enfin, affaiblit en tout cas les institutions, quoi. Alors, est-ce que les politiques au niveau d'une municipalité peuvent quelque part avoir un rôle de réactiver des institutions, sachant que finalement les institutions sont potentiellement des contre-pouvoirs et menacent d'une certaine manière aussi, à certains moments, le pouvoir municipal, le champ politique municipal ?
Une municipalité ou une agglomération,
hein. Oui, ou l'agglomération.
Bon. Pour qu'on soit bien clair dans le débat, je parlerai d'institutions politiques et pas d'institutions en général, parce que c'est encore un autre sujet. Il me paraît évident que à l'échelle mondiale se pose la question, alors qu'on met sous le nom de gouvernance, qui est un terme qui m'agace au dernier degré, mais se pose la question de l'organisation institutionnelle des villes et des grandes agglomérations en particulier. Il y a un pays heureux, c'est la Chine, parce qu'ils avaient un découpage de communes tellement immense que quand vous êtes sur la muraille de Chine, vous êtes toujours à Pékin, qu'une ville dont j'ai même oublié le nom, je ne sais plus, fait 7-8 millions d'habitants. Bon, en fait, c'est de la densité, mais ce n'est pas vraiment des grandes villes, mais la commune est tellement grande que ça fait 7-8 millions d'habitants. Bon, mais à part ça, dans beaucoup de coins du monde, on a ce genre de problème. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les modèles qui sont utilisés pour organiser les institutions d'agglomération, et notamment sur la circulation internationale d'un certain nombre de modèles. Et moi, je suis absolument persuadé. Alors, je m'arrête. Je ne raisonne pas à partir de procès faits aux responsables politiques. Je pense que, à l'échelle des collectivités locales, en France en tout cas, on a l'immense chance d'avoir une partie. Il faut pas être démagogue là-dessus. D'avoir une partie des élus locaux qui sont très attachés au bien public. Alors après, ils font bien, ils font pas bien, c'est une autre histoire. Mais on a au moins une bonne volonté d'attachement au bien public qui est quand même assez fréquente. Bon, après, quand les gens sont au pouvoir longtemps, il y a des dérives, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a quand même ce fond. Et on s'est laissé enfermer dans une non-inventivité institutionnelle qui n'était pas forcément perdue d'avance. Et ce qui me frappe, c'est qu'on n'essaie pas d'inventer des formes institutionnelles. On discute, et les débats du monde politique et du monde technocratique encore plus sont toujours autour des mêmes formes institutionnelles, et qui a très peu de réflexion sur l'inventivité. Je vais juste vous prendre un exemple dans notre petit système institutionnel. Il y a un truc qui s'appelle le pays. Bon, une invention voit de nez, dans sa forme actuelle, s'entend. Ça existe à peine sur le plan institutionnel. Mais qu'est-ce qu'il y a des pays qui marchent bien ? Bon. Et qu'est-ce qu'il y a de choses intéressantes qui se passent dans des pays qui sont censés être rien ? Ou presque rien. Bon. Alors, je crois, j'en parlais tout à l'heure à la librairie, on pourrait inventer plein de trucs. On pourrait inventer plein de trucs, et par exemple, les conseils de développement. Si, dans les conseils de développement, on prévoyait des collèges, tout ce qu'on veut, qui permettent aux non-résidents, mais pratiquant une ville, d'avoir une expression. Bon, quand vous regardez le système très archaïque, alors il est très archaïque, hein, mais d'élection de la City of London, On voit que les forces économiques qui sont représentées, que ceci, que cela, que les gens qui travaillent là, à travers leur patron, hein, mais sont représentés. Et que ça s'est bien inscrit dans la modernité du Grand Londres, infiniment plus moderne que le Grand Paris, et c'est bien pour ça qu'ils ont eu les Jeux Olympiques. Mais donc, l'invention de formes institutionnelles, moi je crois que c'est un chantier. C'est un vrai chantier dont les partis politiques ne se sont pas saisis.
Patience, Jean Renaud, tu réagiras tout à l'heure avec le mot de la fin, mais auparavant.
Jean-Denis Victor, je voudrais rebondir sur cohésion sociale et conflit. Est-ce qu'en voulant faire de la cohésion sociale, on ne veut pas faire le bonheur d'une partie de la population, alors que l'autre s'en fiche complètement, et que cela pourrait être origine de conflit?
Laissez tomber le mot de cohésion sociale et gardez le reste de la France. De la phrase, pardon, pas de la France, de la phrase. Gardez le reste de la phrase. C'est-à-dire que, en voulant faire de la cohésion sociale ou autre chose, on a effectivement ce problème de qui on satisfait. Alors, c'est un problème banal. Je suis en train de banaliser votre question, pardonnez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que la question de la cohésion sociale telle que j'ai essayé de la poser, c'est la question de produire du lien social. Et je voulais définir les termes d'un débat sur en quels termes aujourd'hui se pose la question de la production du lien social. Après, une fois qu'on a admis les termes du débat, il y a des tas de méthodes et des tas de points de vue sur la manière de faire. Et alors, une des choses, je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête quand vous me posez la question, mais moi je vais y mettre ce que j'ai derrière la tête. Un des risques de gouvernement urbain de bonne volonté. Je parle de gouvernement urbain de bonne volonté. C'est d'être trop à l'écoute, notamment dans des dispositifs participatifs, d'être trop à l'écoute des catégories de la population qui peuvent participer à l'expression. Alors, peuvent participer à l'expression, on voit bien. Ceux qui sont exclus de l'expression, de toute évidence, c'est ceux qui n'ont pas accès à la parole. Mais il y a aussi d'autres exclusions. C'est-à-dire qu'on voit qu'en définitive, il y a toute une série de zones sociales qui sont exclues de la parole. Et un des risques qu'on voit chez des élus de bonne volonté, puis ça s'explique assez bien, c'est d'être trop scotché à ceux qui peuvent prendre la parole. Puis en plus, ceux qui peuvent prendre la parole peuvent donner l'impression qu'ils sont assez divers quand même. Et donc, on peut avoir l'impression qu'on a l'ensemble social devant soi. Et on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est un vrai risque. Mais je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Ah ben, j'en profite pour poser ma question sur la citoyenneté présentielle, où il y avait derrière la question de savoir comment intégrer les différents usagers de la ville, qu'ils y habitent ou pas. Est-ce qu'il y avait ce constat-là dans votre réflexion à l'instant ?
Alors,
est-ce que vous faisiez allusion à ça aussi ?
Je fais allusion à ça aussi, mais je vais dire ça autrement. On peut raisonner à deux niveaux. Le niveau de l'invention institutionnelle, je suis persuadé que les conditions sociales dans lesquelles vivent les villes actuellement justifient que l'on réfléchisse à des innovations institutionnelles et qu'on regarde à l'échelle du monde ce qui existe pour voir quelles innovations institutionnelles on peut s'approprier, nous, Français. J'en suis persuadé. Mais d'un autre côté, dans la situation telle qu'elle est, il y a des choses qui pourraient être valorisées. Bon. Je me souviens, quand j'étais avec l'un d'entre vous à l'université d'été de la CFDT, avoir discuté avec des syndicalistes en leur disant « Mais pourquoi vous, syndicalistes, en l'occurrence CFDT, il m'aurait dit « Mais c'est pas vrai, nous on y est, mais pourquoi est-ce que vous êtes si peu dans les débats sur la ville. » Bon. C'est-à-dire qu'il y a aussi un, un, La représentation, elle passe soit par l'innovation, et moi, comme je le disais tout à l'heure, le double vote, voter à l'endroit où on travaille et voter à l'endroit où on vit, je me dis qu'après tout, c'est une idée qui mériterait qu'on en discute au moins, hein, qu'on voit si c'est faisable, qu'est-ce que ça veut dire, etc., qu'on évalue les conséquences. Bon, mais en dehors de ça, je pense aussi qu'il y a des acteurs qui existent, qui peuvent jouer ce rôle et qui pourraient se mobiliser plus qu'ils ne le font. Bon, on ne va pas trop les chercher, hein, mais on pourrait peut-être aller les chercher un peu plus.
Ils sont peut-être dans la salle d'ailleurs déjà. Alors peut-être prochaine question, sachant qu'il faudra donner une explication. C'est vous qui avez projeté
ça ? Non. Ça vient... Celle qui doit donner l'explication, elle est là.
Ah voilà. Quoique, je pensais que c'était M le maudit, donc c'est pas le M. Ah, c'est un Dracula. Ah bon, d'accord. Donc ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais c'est bien aussi. Question. Sinon, j'en aurais une, mais je la laisse dans ma poche. Alors, j'en profite. Brève question et brève réponse, du coup.
Ça, brève réponse, je ne connais pas. Hein.
Préjugé. Mais ça concerne l'urbanité. Oui. Je crois que c'est un mot que vous n'avez pas prononcé. Or, il me semble que, de par l'expérience qu'on peut faire à titre personnel, intime, individuel de la ville, la sensation de cohésion sociale d'un environnement urbain provient souvent, me semble-t-il, de la sensation d'urbanité. Ce qui fait qu'une ville est une ville, c'est qu'elle est urbaine. Et ça repose sur des savoir-vivre, etc. Alors, comment on engendre ça? Comment on cultive ça? Qu'est-ce que les urbanistes peuvent faire pour cultiver l'urbanité dans laquelle je vois un ferment de cohésion sociale à l'échelle urbaine? Je ne sais pas si c'est...
Non, c'est très clair.
Ah bon?
C'est très clair. Bon, d'abord... Un mot sur le mot. Typique d'un problème majeur de l'urbanisme et des politiques urbaines, le vocabulaire. Je me suis expliqué longuement là-dessus dans mon bouquin, mais je pense que, si je le fais, c'est que je pense que le flou du vocabulaire nous joue des très mauvais tours. Sinon, j'insisterai pas. Mais je pense je fréquente les urbanistes et les élus quand même un peu quotidiennement. On fonctionne sans arrêt sur un vocabulaire flou. Honnêtement, il y a des moments où ça rend service. Des fois, ça rend service d'être un peu dans le flou. Mais enfin, à ce point-là, c'est souvent embêtant parce qu'on sait plus ce qu'on fait. Donc ça, et le mot urbanité, il est utilisé dans 20 définitions différentes. Bon. Dans 20 définitions différentes, donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Bon. Après, sur le fond de la question, qui, lui, est très sérieux. J'ai parlé de la fonction d'accueil. Un des aspects de la fonction d'accueil, traduit en termes de programme et de projet, c'est-à-dire vraiment en termes d'urbanisme, c'est qu'est-ce que je fais pour que les gens s'approprient très vite un certain nombre d'éléments de repérage, d'éléments de sens, d'éléments de connaissance du fonctionnement d'une ville, ce qui déjà sera un premier niveau pour qu'ils se sentent bien, et qu'est-ce que j'ajoute pour qu'ils se sentent bien. Bon, l'autre jour, à Amiens, on discutait avec une équipe d'urbanistes qui avait une idée un peu folle, mais assez marrante, de dire « on va mettre des totems ». Qui vont dire des choses sur la ville. Bon. Et moi, j'ai soutenu leur point de vue en disant ça, il n'y a pas besoin d'habiter là depuis 20 ans pour comprendre. Et un des points importants, c'est effectivement qu'il y ait une espèce de possibilité d'accès à ce qu'est la ville très facile. Alors, c'est un élément. L'autre élément, c'est quand même de réfléchir à ce qui, dans l'ambiance, c'est un peu plus compliqué, hein, mais ce qui, dans l'ambiance, fait qu'on se sent bien. Simplement, quand vous demandez à un paysagiste de vous faire un espace public, c'est pas forcément la première question qui se pose. Et là, c'est le rôle de la maîtrise d'ouvrage de dire, bon, comment est-ce que vous allez me faire un truc où il y a des chances que les gens se sentent bien? Et comment est-ce que vous me persuadez qu'avec ce que vous allez faire, il y a des chances que les gens se sentent bien? Bon, ça, c'est un vrai débat. Hein. C'est un vrai débat de la commande urbaine. Et là, alors après, ce que je dis, c'est un peu simpliste, c'est-à-dire dans ce qui fait qu'on a le sentiment d'être dans une ville et de s'y trouver bien, il y a tout un tas de choses. Bon, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas aussi, bon, on n'y peut rien. Mais essayons d'agir sur ce qu'on peut maîtriser.
Toute dernière question avant le mot de la fin de Jam.
Elle est pour vous.
Merci, Mohamed Tabni, donc membre du CDR. La question de la pauvreté au milieu urbain, est-ce qu'actuellement, au-delà des capacités de mobilité sociale ou d'intégration, il n'y a pas cette question un peu récurrente, que faire des pauvres qui deviennent de plus en plus nombreux dans les métropoles, et en particulier de pauvres qui sont très souvent des néo-arrivés, des néo-urbains, souvent de culture encore différente. Donc il y a derrière l'aspect intégration, mais surtout cette question de la pauvreté, quelle place vous lui accordez dans sa dimension de cohésion sociale?
Alors, je ne vais pas répondre par rapport à la cohésion sociale, mais par rapport à la pauvreté. Dans mon livre, là, je dis très rapidement que pour moi, c'est un des problèmes centraux des villes d'après-crise. Moi, je fais un scénario moyennement optimiste sur ce qui va se passer. Je fais un diagnostic moyennement optimiste sur ce qui va se passer dans les villes. On sait que derrière, et j'accuse personne, hein, mais on sait que derrière des politiques urbaines brillantes, je vais prendre par exemple la politique du Grand Lyon, et je ne dis pas qu'ils ont eu tort de le faire. Je ne dis pas un instant qu'ils ont eu le tort de le faire, parce que peut-être que ce serait pire s'ils n'avaient pas fait une politique d'attractivité, etc. Mais quand vous regardez les niveaux de revenus dans le Grand Lyon, c'est fascinant, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire que le Grand Lyon, qui est pourtant riche, ça crée de la richesse, c'est fortement métropolisé, etc. Bon, c'est plein de pauvreté. Mais peut-être qu'il vaut mieux être plein de pauvreté à Lyon que plein de pauvreté à Amiens, où on cherche les locomotives. Hein. Faut pas le prendre pour autre chose que ce que je dis. Mais c'est clair que la question de la pauvreté est quand même, pour demain ou pour aujourd'hui, au centre de la problématique urbaine. Et moi, je ne pense pas que ça va changer, parce que si on désappauvrit certains pauvres, ils seront remplacés par d'autres pauvres. Bon. Et c'est aussi, et ça, on le sait, le problème du périurbain. C'est-à-dire que la pauvreté dans le périurbain, je vous parlais de la Provence verte, alors là, croyez-moi, un tiers de la population en difficulté. 20% sous le seuil de pauvreté, mais un tiers en difficulté. Bon. Donc, c'est alors là-dessus, il n'y a pas de réponse miracle. Mais ce que je pense, c'est que à côté de politiques sociales et économiques, je les lis exprès, c'est-à-dire de politiques liées à l'emploi et à la protection sociale, bon, par rapport auxquelles on connaît à peu près les données du problème, et la question est celle du volontarisme politique, et puis des moyens à mettre derrière, évidemment. Mais à côté de ça, il y a une question qu'il faut oser se poser, et qui est la suivante. Comment on fait pour que les pauvres se sentent bien dans leur ville ? C'est-à-dire, aussi, les politiques, alors elles sont vertueuses, hein, les politiques qui résonnent toujours dans l'optique de supprimer la pauvreté, je ne vais pas les attaquer. Mais en même temps, et on le voit, enfin c'est très frappant en Île-de-France, par exemple, ça va très bien tant qu'on est dans le discours de suppression de la pauvreté. Et quand après, vous commencez à dire, mais qu'est-ce que vous faites pour que les pauvres qui sont là, et qui ne cesseront pas de l'être en claquant des doigts, ils se sentent bien dans leur ville? Qu'est-ce que vous faites là? Bon. Et là, le débat devient plus difficile, parce que c'est pas sexy, hein, ça. Bon. Et pourtant, à mon sens, c'est un élément majeur des politiques urbaines. Je ne sais pas si c'est... Mais on essaie là-dessus de faire passer des idées, de dire, mais oui, il faut travailler là-dessus. Bien sûr, il faut travailler sur l'attractivité, mais après tout, on arrive, en faisant des raisonnements un peu compliqués, à montrer que ce n'est pas antinomique. Enfin, bon, c'est un peu de la rhétorique.
Non, ce n'est pas de la rhétorique. Et d'ailleurs, ce que je retiens de cette soirée, entre autres choses, c'est l'invite que vous nous faites de savoir ce que les mots charrient. Il ne s'agit pas forcément de les jeter avec l'eau du bain, voilà, mais de savoir qu'ils peuvent être porteurs de visions très contradictoires, ambivalentes. Je pense à ce que vous avez dit sur les gated community, sur lesquels on dit pique-pendre, sauf à faire un pas de côté qui permet de voir des choses plus positives, etc. Merci beaucoup. Je me garde de conclure. C'est pas à moi de le faire et c'est plutôt à James Renaud, sachant que ça sera forcément une conclusion provisoire, vu que ce type de conférence, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est un moment dans une réflexion que vous engagez au sein du Conseil de développement responsable. Avant donc de te céder la parole, je rappelle juste que la toute dernière séance de ce cycle-là sera consacrée à l'économie sociale et solidaire, ce qu'elle permet de faire pour conforter, nourrir la cohésion sociale et rebondir du coup sur des choses qui ont déjà été explorées lors de conférences précédentes. Encore merci.